pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Bienvenue au village de l'eau.
À beurre, des écussons, une bouteille de sirop, un imperméable kaki, des casques de vélo, un bleu de travail, des voiles de bateau, de la peinture des ciseaux, un masque, un marteau, un parapluie, des bocaux en verre, et puis un cendrier, un casque de skate, des limes à ongles, des planchettes en bois, des masques FFP3, des bouteilles de gaz de camping, des bâtons de marche. Ouais, cache-cou, matériel de clown de destruction massive, des brumisateurs, des serviettes hygiéniques, parce que Dixit, les agents, ça pourrait faire office de masque. Des crics pour les bagnoles, des extincteurs de bagnoles, un casque anti-bruit pour enfants, un pot curimangue aussi.
Inventaire à la Prévert des objets saisis par les gendarmes aux abords du village de l'eau par Julien Leguet, porte-parole du collectif Bassine Non Merci. Et c'est là aussi tout le style de Julien, à la fois capable d'une infinie drôlerie et aussi d'être extrêmement sérieux et pointu sur les bassines.
Si on avait la même chanson à la Boris Vian avec tout le matériel de la gendarmerie, ça donnerait autre chose. 10 camions Centaure, 9 hélicoptères, 5000 bombes B2, enfin...
Alors oui, vous le savez, Julien Leguet sait faire le clown, manier humour et dérision, ridiculiser ses opposants à l'occasion. Mais quand il s'agit par exemple du massacre du Marais Poitevin, notre batelier ne rigole plus du tout. Julien est un expert du dossier méga-bassines et autres ravages de l'agro-industrie. Et l'un des objectifs du mouvement anti-bassines, c'est d'obtenir un moratoire. Que les députés votent une suspension et une réflexion sur ces bassines de mort. Et plus globalement, qu'on repense un modèle agricole rationnel et vertueux.
La flotte, la situation, elle est catastrophique. La thématique de l'eau et des méga-bassines, quand un révélateur de cette agro-industrie qui détruit notre planète. Parce que ça touche l'eau, ça déborde. C'est plus une thématique agricolo-agricole. Ça donne la légitimité à toutes citoyennes et citoyens à questionner la manière dont l'agriculture se pratique. C'est certainement pour ça que ce moratoire est aussi dur à obtenir. Si ce verrou pète, c'est toute l'agro-industrie qui est re-questionnée en profondeur. Et l'ambition profonde, elle est vraiment de changer l'agriculture, permettre l'installation paysanne, trouver les modalités et la redistribution des aides publiques pour que la subvention elle vienne soutenir des projets vertueux et pas l'agro-industrie. C'est normal que ça résiste en face. Si le moratoire est déclenché, la suite logique, c'est qu'en fait... partout sur les territoires, des véritables instances démocratiques ouvertes, des assemblées de l'eau, soient ouvertes partout.
Salut les amis, c'est JBD, c'est bientôt la fin de cette longue série Village de l'eau qui s'est tenue à Saint-Martin-les-Mels en juillet 2024. Saga dans tous les épisodes sont à télécharger sur polémix et lavoixoff.com. Et pour ce chapitre enregistré le lundi 22 juillet, on retrouve Julien Leguet complètement rincé, épuisé, comme toutes ses copaines de BNM, des soulèvements et compagnie d'ailleurs, affairés ce jour-là à démonter le village. Et il y a encore gros de boulot au moment où on se parle. On parvient quand même à choper Julien entre deux ateliers démontage et on s'assied dans l'herbe derrière la ferme de la Génellerie, plus pour une conversation à bâton rompu que pour un véritable bilan fait sérieusement. Alors excusez-nous par avance, ce qui suit vous semblera certainement un peu vaseux, mais on est exténué et surtout Jules. Salut Julien.
Salut à tous, à toutes.
C'est un peu triste, ça fait un peu comme à la fin de la colo.
On sait qu'on se retrouve à la prochaine colo aussi, donc ça va. Phase de transition, heureusement c'est pas du jour au lendemain, il y a 3-4 jours de démontage. En effet, les copains vont partir petit à petit, mais là si on prête bien l'oreille, on entend le doux chant du déplanteur de pinces. Il y a l'échappe qui sont en train d'être démontées.
La dernière fois que nous nous sommes croisés, c'était dans la manif de La Rochelle, où j'étais croisé donc avec cette magnifique bouée en forme de licorne de couleur mauve, et cet adorable maillot de bain turquoise à froufrou.
À dentelle, il n'y a pas de froufrou. Il faut être précis quand on est journaliste. La licorne, elle est la dominante rose. Grosso modo, les couleurs du NFP, je te le sais.
Tout ça pour dire qu'elle était quand même bonne, l'eau, sur la plage de La Rochelle, à la fin de la manif.
Bonne en température. Je crois qu'elle reste d'une qualité assez exécrable, et ce qui fait que la plage de Chef de Baie, elle est régulièrement impropre à la baignade. Moi, j'ai un copain, une fois qu'il a mangé des coquillages sur la plage de la concurrence, il a chopé une hépatite dont il y a 10 ans, dont il a encore des conséquences. Donc, elle est bonne, mais elle n'est pas bonne, quoi.
On vous l'a raconté dans cette série, samedi 20 juillet à La Rochelle, une manif action a rassemblé près de 10 000 personnes, manif achevée par une baignade à la plage, après que la queue de cortège ait été attaquée par les gendarmes. Lors de la manifestation de la veille, vendredi 19 juillet, dans la campagne de Migné-Auxances, la gendarmerie a mis le feu aux champs traversés par près de 6 500 manifestantes et manifestants, et 6 personnes n'ont été tuées ou blessées. C'est bien grâce aux organisateurs de la manif, et notamment grâce à de la formation préalable pour manifester de façon cohérente, en particulier avec un langage de signes, technique probablement transmise par des black blocs et autres autonomes venus au village de l'eau pour partager des outils de leur culture militante.
C'est les forces de l'ordre, hein, qui ont balancé de la lacrymo et qui ont déclenché ce feu assez fulgurant, quoi, hein, long, dangereux et tout ce qu'on veut, quoi. Et moi, je pense que la scène qui me restera en tête, c'est cet hélico qui nous survole, hélico de la police, des flics, qui nous dit « quittez les zones jaunes, rejoignez les zones vertes ». Ça donne aussi une certaine idée de leur vision du paysage, hein, et de compréhension du paysage. Les zones vertes, c'était du tournesol. Puis ce truc hallucinant, rétro-futuriste, apocalyptique, de cet hélico qui se met à 20 mètres au-dessus de nous et qui nous fait « suivez-moi, suivez-moi ». Bah, en fait, ces formations qui prennent une place importante, hein, dans la programmation, elles ne viennent pas de nulle part. C'est qu'aujourd'hui, face au niveau de répression dont on fait l'objet, ça fait maintenant malheureusement partie du kit du parfait manifestant écologiste de savoir se protéger, de se comporter en groupe face à cette violence policière, de savoir faire face à la répression juridique qui peut s'en suivre, comment on communique ensemble, comment on se soutient les uns les autres. Moi, il y a un truc qui me marque, hein, je me suis retrouvé avant-hier face au Centaure dans La Rochelle. C'est la nouvelle version de blindé des policiers, c'est des engins énormes qui peuvent tirer de la lacrymo en série et compagnie, quoi. Et donc j'étais avec ma bouée et mon mégaphone sous le bras à leur faire face et à leur dire de ne pas tirer parce qu'on était essentiellement en maillot de bain et on manifestait aucune velléité, aucune dangerosité à leur égard. Et
y avait... C'est La Rochelle où on rappelle qu'il y avait deux cortèges, un cortège nord avec, comme dit la presse, des éléments radicalisés dedans et puis le cortège sud, celui dans lequel nous étions, qui nous avait été annoncé comme rigolo et qui l'a été. Cette ambiance bouée, crocodile gonflable, chargée et gazée à un moment.
Et ça aussi, c'est des choses à noter dans le maintien de l'ordre, quoi. Attaquer une queue de cortège, c'est criminel. Tous les cortèges de France, on sait que les plus déterminés, les mieux équipés, les mieux en mesure de faire face aux violences policières, ils sont en tête de cortège. Et à l'arrière, c'est plutôt les papis, les mamies, les familles, quoi. Quand on a des forces de l'ordre qui tirent en queue de cortège de la lacrymo pour nous faire avancer plus vite, ils risquent là encore de s'en prendre à des gens qui ne sont pas du tout là pour ça, qui ne sont pas du tout préparés à ça, qui ne sont pas du tout équipés pour ça. C'est criminel. On a assisté encore là pendant 2 jours à toute une série de manœuvres policières, de manœuvres gendarmesques, mais d'une dangerosité hallucinante, quoi. C'est des gros débiles, en fait.
Et heureusement qu'il y a eu formation. Et je reviens par exemple à cet outil qui est vachement intéressant, qui est le langage gestuel. Tous ces gestes pour indiquer tournez à gauche, tournez à droite, arrêtez-vous, faites silence. On a parlé avant la manifestation, je t'ai fait part de la crainte que j'allais. Je t'ai dit, j'ai pas envie d'aller me faire gazer à La Rochelle. On y est allé quand même parce que fallait bien et que c'était chouette. Il y a eu ce moment-là, j'étais dans cette queue de cortège qui a été attaquée, gazée. J'ai vécu quelques minutes de trouille assez intense, mais pas de panique. Parce que même au milieu des gaz où je voyais plus rien, voilà, lacrymo, hein, je continuais à faire corps, je continuais à me sentir partie intégrante, molécule de cette manifestation.
Encore une fois, les blocs ont fait ce qu'ils savent faire, ils ont été à l'auteur, ils sont venus en interposition. Quand ils ont vu que l'arrière du cortège était attaqué, ils y sont allés à l'arrière, ils ont sorti les parapluies et en fait ils se sont fait prendre pour cible pour épargner la queue du cortège. Donc on va débriefer tout ça et c'est vrai qu'il y a cet épisode un peu malheureux de la supérette qui a attaqué. Les médias mainstream, ils attendent le moindre dérapage pour pas traiter du fond. En fait, ça y est, ils ont leur sujet, ils ont même pas trop à se poser la question, ils ont même pas trop à faire du journalisme, ils déroulent leur truc habituel. tu parles de discipline, c'est ça être l'eau, c'est ça la stratégie Be Water et compagnie. C'est aussi que quand ça bloque à un endroit, bah, y a d'autres courants et l'eau arrive à passer sur le côté, sur un autre interstice, etc. Justement, si on veut que ça fonctionne comme ça, en fait, il ne faut pas de commandement strict. C'est qu'il y a des gens qui prennent aussi des autonomies d'action et de réactivité, etc. Bah, dans un schéma global, en fait, on forme un même courant, on participe de la même lutte, il y a beaucoup de respect et d'écoute de part et d'autre. En réalité, les camarades qui s'en sont pris à ces équipements-là, bah, il faudrait que je les chope et puis qu'on discute et puis qu'ils me disent le sens profond de leurs gestes.
Dégrader la façade d'une banque, moi perso, ça ne me fait pas pleurer. C'est vrai que Super U, c'est pas la même chose.
Super U, ça dépend. Si c'est le grand centre commercial avec les actionnaires qui... là, c'est la petite supérette du quartier et compagnie. Tu vois, je suis en train de retomber dans le truc, de parler d'un truc qui n'est pas un sujet.
Oui, cela dit, je dois entendre, on a rigolé dans la voiture parce qu'on a entendu une déclaration, me semble-t-il, du préfet du département qui expliquait en fait la logique de ce qu'il présentait lui comme des casseurs au sujet de ce commerce et qui a expliqué en fait qu'il comprenait la logique, si j'ose dire, militante de ces gens-là parce que cet endroit est un symbole du système capitaliste. Dans la bagnole de retour de La Rochelle, on a explosé de rire en fait. On a dit bon, bah voilà, on a une analyse marxienne donnée par le préfet lui-même, c'est génial.
Bah, peut-être qu'il sera avec nous dans le prochain bloc. Alors, d'ailleurs, soit dit en passant, ce mouvement qui est hyper composite et qui touche vraiment toute la société française, on a des anciens très hauts responsables, très hauts fonctionnaires qui sont à nos côtés, hein. Notamment en Charente-Maritime où un sous-préfet avait fait des déclarations nous donnant raison sur le fond et complètement. Et même dans les modalités d'action et le rehaussement du rapport de force où il nous donnait également raison. On a un évêque à Poitiers qui dit que les bassines c'est de la merde et que face à la violence d'État, il est légitime de résister et de ne pas attendre l'autre jour.
Même si, dans la foulée de la manif de La Rochelle, les médias dominants ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire casseurs, éco-terroristes, machin, etc. Malgré tout, moi j'ai le sentiment que Bassine Non Merci et les soulèvements ont remporté des victoires médiatiques, et pas seulement au national, à l'international. Il faut voir quand même ces deux jours de manifaction comme des victoires médiatiques. Et le nerf de la guerre, c'est la propagande, c'est la communication, c'est les médias. Ben, on n'a jamais peut-être autant parlé de l'agro-business, de l'agro-industrie, du béton, du système mortifère des méga-bassines et de leur monde, dans la presse, à la télé, etc. Et même dans des médias dominants qui ne sont pas forcément nos copains.
Ben, ça fait dire que le format qu'on avait choisi de se rencontrer sur une semaine et de faire vivre ce village de l'eau avant les manifestations, ben, c'était un pari gagnant. Parce qu'en effet, on a senti une ébullition très tôt dans les médias. Il y avait des médias nationaux présents dès l'ouverture du village. Comme au village, bah, tout ce qu'il y avait à montrer, c'était toutes les belles choses qu'on a envie de faire, de porter, bah, ils l'ont traité. Quelque chose alors qui est épuisant, hein, c'est une véritable prouesse logistique, on est tous rincés, épuisés, là, y a un virus qui traîne, on est tous en train de le choper parce qu'on est rincés, quoi.
Quand on pratique la guérilla cubaine, faut pas s'étonner d'attraper une fidèle gastro.
Une fidèle gastro, elle est bonne celle-là, tu me l'as volée, bravo, excellent. Bah, c'est ça, on a une fidèle gastro. Je pense que le format, il était propice à ça. L'intelligence dans le choix des objectifs opérationnels, je me ravis, on se ravit que le port de la Palisse soit autant pointé. Aujourd'hui, des articles de fond qui viennent dénoncer les entreprises, dire ce qu'elles pratiquent dans le sport et tout. Donc, c'est vraiment super. Et puis même sur l'aspect strictement du rapport avec les forces de police, on avait fait cette manifestation une semaine avant les JO parce qu'on savait que la presse internationale allait zioter ça comme pas possible. J'ai pas encore eu le temps, là, on est même pas atterri, quoi, mais de faire le tour de la presse internationale. Mais il y a fort à parier que Il y a des millions de personnes aujourd'hui à travers le monde qui savent qu'en France, on est capable de déclencher un incendie pour étouffer une manifestation. Là, je pense qu'on a encore gagné des places en termes de répression à l'échelle mondiale. Je pense que Darmanin, il va arriver à ce que la France soit dans le top 10 des régimes les plus violents vis-à-vis des mouvements sociaux.
Revient à cette guerre médiatique. Tu sais, c'est toujours ce truc quand on te dit en fait, j'ai réfléchi à ce que tu as dit, tu avais raison sur le fond, mais pas sur la forme quand même. Et donc, même dans des médias un peu conservateurs, un peu frileux, etc., il y a ce truc de en fait, ils ont raison, ce système de l'agro-industrie, de l'agro-business, c'est pas bien, ça nous emmène à notre perte, mais ils ne savent pas le dire.
Ça, je l'ai senti il y a deux semaines de ça où on était invité au Festival du journalisme à Couthures-sur-Garonne. C'est un public d'afro-gauchistes, hein. C'est les lecteurs de l'Express, du Monde, du Figaro. La thématique principale était autour de l'eau. Il y avait Benoît Biteau qui intervenait avant avec Florence Abbesse. On intervenait avec Julie Trottier après, face à l'horrible Franken.
Alors Benoît Biteau, hein, qui est le tout fraîchement élu député du coin.
Charente-Maritime, ouais, notamment du secteur où il y a les bassines illégales de la Zadéroche. Peut-être le futur ministre de l'Agriculture. C'est vraiment un camarade avec qui on lutte depuis des années et des années.
Depuis le millénaire dernier.
La phase qu'on vient de vivre, elle donne d'autant plus de crédit à notre demande de moratoire. D'ailleurs, on est en train là, de faire tout un tas de communiqués, de mettre en place toute une stratégie avec nos alliés. Il faut qu'on crée les conditions pour que, quelle que soit l'ingouvernabilité de la France dans les mois qui viennent, il y a néanmoins des décisions au niveau, donc soit des décrets, soit des projets de loi. C'est toute la difficulté, mais je le pressens, là. Je sens que ça commence à bouger à ce niveau-là, qui touche d'autres élus et d'autres forces que les forces de gauche traditionnelles. Je pense que, par exemple, les gens qui se revendiquent démocrates chrétiens ou ce genre-là, en fait, ils ont de plus en plus de mal à justifier les bassines. Parce que quand tu leur poses la question du partage, qui est quand même une des grandes valeurs fondamentales du catholicisme, du christianisme et de beaucoup de religions, ça colle pas. Les méga-bassines, c'est l'inverse du partage. En face, ça dit « Oh non, c'est une gestion semi-publique et tout ». Non, non, quand tu leur donnes les chiffres, que tu leur expliques comment d'une année sur l'autre, l'eau elle est distribuée d'une ferme à l'autre, et que c'est la mafia, ça tient pas le choc. Par exemple, dans le département d'à côté, il y a un Sachaouillé qui, semble-t-il, était prêt à faire une espèce de dissidence et d'emmener certains députés avec lui pour essayer de monter une espèce de gouvernement SOSDEM. Comment au sein de la Macronie, qui est quand même sérieusement fissurée, en tout cas la politique du chef, et puis il n'y a plus qu'une tête, je pense que ça ne va pas durer. Hein. Le coup qu'il leur a fait, ça a créé beaucoup de distensions et de... En fait, le moratoire, il est appropriable par des gens qui peuvent être même pro-bassine. Il est appropriable par tous les gens qui pensent que c'est normal que ça génère des tensions, parce que la démocratie, elle est tronquée, en fait, sur cet aspect-là, elle est bafouée. Tout démocrate ou républicain, aujourd'hui, doit se faire porteur de notre demande de moratoire. Et puis, grosse victoire, le convoi de l'eau avait cette vocation-là, et puis tout ce qu'on a mené comme action depuis un an et demi, depuis Sainte-Soline 2, montrait que... Malgré la violence massive, le mouvement était loin d'être mort. Et dans l'adversité, en fait, ça nous oblige à être créatifs, ça nous oblige à faire corps encore plus. Quelque part, la répression, elle nous renforce, elle nous oblige à nous structurer, à nous organiser, nous former, etc. Ouais, c'est un grand succès, ce village de l'eau. Au bas mot, c'est près de 50 000 personnes qui ont participé, soit en venant sur le village, soit à un temps de manif, etc. Donc on a encore franchi un cap par rapport à Sainte-Sau 2, qui était déjà en nombre énorme. On parlait d'entre 25 000 et 30 000 personnes qui avaient participé à la méga manif. Le cortège à La Rochelle, il est massif.
C'est quoi, c'est 10 000 personnes ?
Entre 10 et 15, oui. Parce que notamment, il y avait deux cortèges. Il faut compter quand les deux cortèges se sont rassemblés. Moi, j'ai vu celui du Nord partir, je suis arrivé un peu à la bourre. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et puis quand j'ai rejoint le cortège sud, bord de mer, là, c'était une marée humaine. De toute façon, il y a des chiffres un peu concrets. On sait qu'il y a 42 000 repas qui ont été servis, qu'il y a plein de gens qui n'ont pas mangé sur place ou qui venaient avec leur victoire et tout. Finalement, une des grosses questions qui se pose aujourd'hui, c'est la prochaine. Donc quand on a vécu Sainte-Soline, qu'on vit un truc, et puis que le sentiment général de tous les gens qui partent d'ici... c'est des grandes embrassades et c'est qu'une envie, c'est de se retrouver à nouveau. Ben, le mouvement, il est plus vivant que jamais. Donc se pose la question de, ben, et la suite ? Ben, la suite immédiate, c'est continuer la lutte au quotidien pour obtenir le moratoire à travers tous les moyens, etc. Évidemment que la prochaine grosse mob, c'est pas tout de suite. Par contre, il y a un vrai enjeu à stopper, à empêcher le projet de Saint-Sauvant de démarrer. On va reprendre notre résistance en local et on sait aussi que sur des coups rapides comme ça, et sans des logistiques de malades, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont en mesure de réagir. D'ailleurs, ça nous fait dire aussi, quand on regarde les stratégies qui ont été mises en œuvre, on couple des actions massives avec des actions plus furtives. Le massif permet aux furtifs d'exister. Par exemple, Migné-Auxances, qui mobilise beaucoup de forces de police, beaucoup d'attention, etc.
C'est l'histoire du champ en flamme.
Ça permet à l'opération incroyablement poétique et déterminée du lâchage de lentilles dans les bassines à l'aide d'un cerf-volant papillon de s'accomplir. Le fait d'annoncer ce gros rassemblement à La Rochelle, ben, il y a toute l'attention qui est là-dessus. Et puis les flics ne voient pas qu'en fait, les tracteurs ils vont arriver par l'île de Ré, quoi. Il faut faire corps, et c'est un petit peu ça qu'on partage avec les soulèvements de la terre, être en mesure de poser des gestes massivement, d'être ensemble et de poser des actes significatifs, et c'est complémentaire de tous les actes qui vont être menés par des gens organisés en autonomie et qui vont être capables d'agir sur d'autres fronts. Je rappelle qu'on est à la 17e bassine débâchée, et ça encore, ça devrait pousser, y compris les porteurs de projets, à demander un moratoire. C'est clair et net, et je le dis et je le redis, hein, moi je suis en rien instigateur de débâchage, j'ai pas le courage d'y aller, je peux pas y aller, etc. Tant qu'il n'y aura pas une espèce de paix sociale, ben, les débâchages continueront, c'est certain. Et je pense qu'à l'inverse, si BNM ou les soulèvements disaient, ben, là il y a un processus de discussion qui est en œuvre, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui respecteraient la trêve, quoi. Et c'est ça qui est vraiment chouette, et tant qu'on sera là-dessus, ça ira bien, quoi. Enfin, il n'y a pas de chef dans ce mouvement, quoi. Il n'y a pas de directive. Évidemment qu'il y a des organisateurs qui prennent en charge les responsabilités, etc., sur les cortèges. C'est important qu'on laisse une grande latitude et qu'on ne se comporte pas en despote. On n'a rien à... Je ne suis pas très clair et limpide là-dedans, mais vous voyez bien. Là,
non, et puis là, j'ai envie de me foutre un peu de ta gueule. Je dis aussi, heureusement que le mouvement a une espèce de personnage en ta personne qui est aussi entre la rockstar et le clown médiatique qui permet de faire un peu paratonnerre. Et puis, du coup, dans ton dos aussi, il y en a plein qui font plein de trucs. Et toi, tu assumes très bien ce rôle-là et tu le joues très bien.
Dont acte, hein, c'est. Les
fermes-usines de cette société-là, on n'en veut pas! Les méga-bassines, les fermes-usines de cette société-là, on n'en veut pas.
Les méga-bassines, les fermes-usines de cette société-là, on n'en veut pas.
On aura déjà constaté à ce micro, ce village de l'eau a rassemblé un très large spectre de gens, collectifs, groupes qui, jusque-là, ne se fréquentaient pas forcément et qui, pour cette occasion, auront cohabité, communiqué, échangé, construit et lutté ensemble. Zadistes, autonomes et autres black blocs, sortis de leur réserve et de leur entre-soi, et aussi des membres de communautés LGBTQIA+, qui ont, une fois de plus, fait un effort pédagogique avec tout le monde, pari apparemment gagnant sur le village. Tout le monde a acté le respect et la solidarité que tout le monde doit à tout le monde, quel que soit le sexe, le genre, l'orientation, l'identité de tout un chacun et chacune. Même si, pour le dire vite, la population du village était quand même très blanche de peau, peu de personnes racisées, comme on dit. Mais c'est cette unité dans la diversité qui donne de la force à cette lutte anticapitaliste, écologiste, antipatriarcale, féministe et queer. Un immense acquis et un pari gagnant qui renforce le mouvement et que l'on doit au courage et à la volonté de fédération de Copen. Constat donc de deux hommes blancs cisgenres, pas très jeunes, dissertant sur la transversalité. Julien Le Guay.
Ouais, c'est quelque chose que j'avais senti à l'époque à Notre-Dame-des-Landes, ou notamment dans la radio qui émettait à Notre-Dame.
Radio Klaxon, sur le 107.7.
C'est ça. Il y avait beaucoup de prises de parole des communautés LGBT+, QI+, je crois que c'était juste LGBT+, à l'époque. Je découvrais, hein. Ça me paraît en fait tout à fait normal que les gens qui subissent des oppressions sexistes se retrouvent ici. Ça se veut un lieu d'ouverture, un lieu de tolérance, un lieu de... Et après, le pont avec les luttes environnementales, etc. Pour moi, le...
Depuis le temps qu'on nous bassine avec la convergence, sans jeu de mots, sur la convergence des luttes, bon, bah, là, c'est voilà, très concret. Hein.
Bah, et que ça converge sur l'eau. Même quand on réfléchira ensuite que les sociologues et compagnie regarderont le mouvement avec le recul, etc. Déjà, ce qu'on pressent dans les analyses, c'est que c'est une alliance très large, qui est assez inédite en France. Cette alliance où on va retrouver côte à côte des blocs, des anarchistes, des autonomes, des partis, des syndicalistes, des associations, des institutionnels, etc. C'est quoi la magie, quoi ? C'est quoi qui fait qu'on arrive comme ça, en effet, et puis là, tu me fais part de ce que tu as vu en cortège, de ces grandes solidarités, ces compréhensions réciproques, etc. Je pense que le fait que ce soit pour une ressource vitale, je vois la similitude avec ce qui s'est passé sur le NFP face à un péril imminent. On dépasse nos querelles de chapelle, on est capable de revoir l'intérêt général avec un grand I et à repenser des stratégies avec beaucoup plus d'ouverture, parce qu'en fait, c'est juste un péril imminent, quoi. La flotte, ouais, la situation, elle est catastrophique. Le thème n'est pas étranger et aux formes et à l'alliance que cette lutte permet, quoi.
Je t'avoue qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, je me disais, oui, bon, sorti de la lutte des classes, point de salut, et de voir, en fait, non, qu'il n'y a pas de lutte prioritaire, que tout doit s'affronter de front. Affronter le capitalisme, c'est aussi affronter le patriarcat, c'est aussi affronter le sexisme, c'est... Il n'y a pas une lutte moins importante qu'une autre.
On rencontre aussi les luttes anticolonialistes, très fort. Voilà. Là, ça a été très, très fort. La Rochelle, de mettre en regard ce port négrier, cette histoire négrière avec l'agro-industrie qui aujourd'hui a pris possession, c'est la Palice qui est consacrée à tout ça, c'est à Mel l'an dernier, il y avait déjà eu beaucoup de représentants internationaux. Mais on avait eu un retour des camarades qui disaient mais on a le sentiment un petit peu d'être là pour le décorum et puis donner une image, etc. Bon, c'est en cherchant bien, hein, mais et en effet, il y avait quelque chose de stacabila. Et là, les choses se sont construites tout différemment, comme ces alliances. Là, à l'époque, c'était la rencontre. Là, à partir du moment où on a vécu quelque chose ensemble, on a plus de confiance pour passer à l'étape d'après. Ça aussi, pour moi, c'est un moteur fort. Je pense que le mouvement, il est aussi fort depuis 7 ans, parce qu'on se construit dans l'action. On ne se construit pas simplement que dans les réunions et dans les confrontations des intérêts, des mandats des uns des autres. Toutes ces épreuves qu'on a traversées ensemble, qu'on voit de l'eau, Sainte-Soline 2, etc., etc. À chaque fois, il y avait des défis collectifs à relever. Et ça, ça donne beaucoup, beaucoup de force, beaucoup de confiance. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup d'automatisme, en fait. On est en train de créer des espèces d'automatismes et une culture commune, quoi, qui fait l'efficacité. Et donc, sur les aspects anticoloniaux et rapports Nord-Sud, là, concrètement, il y a eu une journée, c'était des rencontres dites non publiques, un chapiteau qui était consacré à toutes ces rencontres de représentants internationaux dans cette optique-là, avec des optiques très concrets. Et j'ai hâte de voir ce qui en ressort, comment c'est écrit. Il y a déjà eu des retranscriptions orales qui laissent percevoir des choses assez incroyables. Et là, même là, cette fierté de dire, les camarades internationaux ont participé à l'élaboration des plans et des objectifs et des lignes médiatiques qu'on allait vouloir tenir derrière. C'est super. Samedi soir, on avait Christian Porta, qui est un militant CGT de InVivo, qui est un des grands géants de l'agro-industrie française, qui était sur scène devant 15 000 personnes. Et ça a beaucoup de sens, quoi. C'est très puissant. We'll be right back.
ça se rejoint. Sur Notre-Dame-des-Landes, la ZAD, c'était lutter contre un aéroport. En fait, il ne s'agissait pas de lutter contre un grand projet inutile, ponctuel, là, comme ça, planté dans le bocage. Yael disait, contre cet aéroport et son monde. C'est les bassines et leur monde. En fait, tout ça est lié et la lutte des bassines me permet de comprendre qu'il ne s'agit pas juste de lutter contre le pompage des nappes phréatiques, mais contre un système global, parce que ces bassines, elles vont aussi avec le béton, avec le colonialisme, avec l'exploitation du nord par le sud et du nord par le nord aussi. Même nos ruraux ici, nos exploitants agricoles, ils sont colonisés. Les bassines, comme l'un des engrenages de cette immense machine mortifère, c'est une porte d'entrée. Ce qui nous emmène effectivement vers ce que tu évoquais là, dans ces rencontres internationales où il y avait des gens qui venaient du Rojava, du Brésil, du Mexique, de Suisse, d'Allemagne, de partout sur la planète, je m'excuse pour celles et ceux que j'oublie, il y a eu des prises de parole, des restitutions, là, notamment sur toute cette journée du dimanche et puis aussi la veille. Il y avait un niveau d'intelligence politique. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Tu dis tout. C'est peut-être qu'on a vécu le même moment, alors.
Ouais, c'est peut-être juste ça, quoi. Non, mais... La thématique de l'eau et des méga-bassines quand un révélateur de ce monde, de cette agro-industrie qui détruit notre planète. Justement parce que ça touche l'eau, ça déborde. C'est plus une thématique agricolo-agricole. Ça donne la légitimité à tous citoyennes et citoyens à questionner la manière dont l'agriculture se pratique. Ça met en exergue que le type d'agriculture qui est pratiquée sur les territoires va conditionner l'accès à l'eau, à une autre qualité, que ce soit pour les milieux, l'eau potable, etc. C'est certainement pour ça que ce moratoire est aussi dur à obtenir. Parce que je pense que les puissants en face et l'agro-industrie, etc., se disent, à juste titre, si ce verrou pète, c'est toute l'agro-industrie qui est re-questionnée en profondeur. Et évidemment, si on gagne sur les bassines, ce sera une première victoire. Et l'ambition profonde, elle est vraiment de changer l'agriculture. Elle est vraiment de permettre l'installation paysanne, de vraiment trouver les modalités et la redistribution des aides publiques pour que la subvention elle vienne soutenir des projets vertueux et pas l'agro-industrie. Donc c'est normal que ça résiste en face, c'est normal que finalement on puisse aspirer à ce que ça change et évidemment que ça se goupille avec les stratégies politiques. Et qu'évidemment, la perspective là, à court terme, l'espoir, il est autour d'un gouvernement à dominante NFP et que ça déclenche le moratoire. Mais si le moratoire est déclenché, la suite logique, c'est qu'en fait, partout sur les territoires, des véritables instances démocratiques ouvertes, des assemblées de l'eau soient ouvertes partout. Que les projets alimentaires de territoire qui aujourd'hui se mettent en place dans toutes les com-com et compagnie, ce ne soit pas... le lieu privé des discussions entre la préfecture et la FNSEA, mais que ce soit évidemment beaucoup plus large possible. On touche avec cette lutte sur les bassines et cette manière de s'organiser, on touche du doigt, on met en évidence qu'il y a des grands champs de possibles en termes de faire politique ensemble, en termes de participation citoyenne. Si les citoyens, on leur donne autre chose qu'un espace simplement consultatif et qu'ils peuvent être force de proposition, mais en plus réalisateurs des propositions qui sont faites, là c'est des moteurs de ouf. T'imagines ce village de l'eau, s'il était fait par une com-com ou une boîte privée, en fait, c'est juste pas atteignable, c'est des millions d'euros. Et c'est là, avec toutes nos forces, nos alliances, nos mises en commun, etc., on fait un truc qui est d'une beauté incroyable. Et même, on s'affranchit de l'argent. Là, on est en train de refaire les comptes. Alors, la buvette, elle n'a pas autant tourné qu'eux, il manque des thunes. On n'a aucune inquiétude. Si c'était le cas, si à la fin du bilan, quand on aura tout mutualisé, les coûts et compagnie, on est dans le rouge. On balance une caisse de seau et hier soir, la rumeur courait qu'on était un peu dans la mouise.
J'ai entendu le chiffre de 100 000 euros de déficit.
Ouais, ça va baisser parce que là, on va affiner les trucs, quoi. Mais il y a eu 14 000 euros récoltés en une heure à l'accueil, quoi.
Vous avez été nul, vous n'avez pas tiré assez de t-shirts, du coup, j'ai pas pu m'acheter le mien.
Ouais, voilà, c'est ça. On est vraiment nul en merchandising.
J'ai même envie de dire, même le MEDEF devrait s'inspirer de ce qui s'est passé ici, parce qu'avec tous ces gens qui ont travaillé gratuitement pendant des mois, des semaines, qui travaillent sans salaire et avec joie en plus, mais moi, si j'étais patron, ça me ferait kiffer.
Très concrètement, il y a eu un outil qui a été mis en place en amont, notamment du village de l'eau, qui est formidable, qui a été mis en place par la mairie. Les bénévoles sont considérés comme... contributeurs de services publics. Et à ce titre-là, c'est bénévole pour une collectivité. Et si nous arrive quelque chose, on est couvert par les assurances. C'était très confortable et nécessaire parce qu'on a fait du bricolage avec des machines et compagnie.
Alors ça nous semble aujourd'hui loin dans le temps, mais il faut se souvenir du contexte politique contemporain du village de l'eau de juillet 2024. Un mois avant, en juin, Macron dissout l'Assemblée. Des sondages annoncent le Front National à Matignon, oui je dis toujours Front National, hein. Et le village de l'eau est donc monté dans ce climat d'anxiété et se tient peu de temps après des élections législatives anticipées qui voient donc un sursaut antifasciste et une vague inattendue d'élections de députés d'un nouveau Front Populaire que, fidèle à sa tradition de la trahison, le PS ne tardera pas à torpiller, même si on s'en doute cela n'a pas encore eu lieu au moment où on se parle avec Julien. Et puis vous aurez remarqué l'excès d'optimisme politique affiché à ce micro en juillet 2024, même en redoutant ce qui a fini par venir, c'est-à-dire déni de démocratie et criminel aveuglement des despotes illégitimes qui entendent nous diriger. Le retour des pesticides et autres horreurs de la loi scélérate dite Duplon n'ont pas encore eu lieu. Retour aux espérances de juillet 2024, toujours avec Julien Leguet de Bassine Non Merci.
Et demain, comment on empêche le fascisme de s'installer dans 3 ans ? Au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du gouvernement, il y a une échéance qu'il ne faut surtout pas louper, c'est les municipales. Et justement, le cas de Mel doit être très inspirant. Ça montre bien que quand des citoyennes et citoyens qui s'affranchissent un petit peu des logiques partisanes, des étiquettes, etc., et qui construisent et qui imaginent leur territoire, la manière de faire de la politique de manière beaucoup plus ouverte, participative, citoyenne, etc., ça déclenche des trucs de fou. On a largement à s'inspirer de Mel. J'espère que du village de l'eau, ben, ça va mettre en mouvement sur les territoires et notamment, pourquoi pas, autour des collectifs locaux, des soulèvements de la terre, toute une réflexion pour que dans tous les petits bleds, etc., il y ait de nombreux camarades qui rentrent là-dedans. Ce mouvement-là, il est en train de nous réconcilier avec la politique, mais de nous faire prendre conscience que dans la multitude des stratégies, ben, on ne peut pas abandonner les stratégies politiques. Si dans l'adversité, il faut être dans des désobéissances civiles, des fois en résistance physique, etc., si on n'a pas activé le premier levier, qui est le levier politique, ce n'est pas valable. On a loupé une étape. La première chose où on peut gagner les choses, c'est dans le cadre démocratique traditionnel. De la même manière que la seconde étape, quand les bras de fer ou quand on n'arrive pas à prendre les collectivités, etc., ben, il y a quand même dans le droit français un tas de trucs qui protègent l'intérêt général. Dans cette diversité des tactiques, cette diversité des outils, le rapport aux politiques et le rapport aux élections en fait pleinement partie.
Le bulletin de vote reste un outil dans le système dans lequel on évolue, en tout cas en France aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a vu là, lors des dernières législatives.
Si on ne veut pas aller voter avec une pince à linge sur le nez, comme ça nous arrive à chaque fois, ben, comment on s'organise en amont pour présenter des listes dans lesquelles, auxquelles on est OK ou,
S'il y avait des bitos partout, ce serait plus simple. Quoi.
Ce serait plus simple, mais et puis s'il y avait des Sylvain Griffaut et des Florian et des Sarah partout, ouais, ce serait plus simple. Là où je vais mettre Benoît, Sylvain et ma pomme, c'est qu'on incarne encore quelque chose de la vieille politique à la papa, qu'on le veuille ou non. Quoi. On reste des mâles blancs, 6, tout ce que tu veux.
Et puis on est vieux.
Qu'on voit bien que le ressort principal d'un truc aussi fort que le village de l'eau, c'est justement la diversité des profils, c'est le nombre de très jeunes qui sont tellement au taquet. C'est le collectif qui est fort. Et ça, c'est peut-être une des pistes, mais il y a vraiment des belles choses aussi qui se sont passées cette semaine. C'est comment on s'affranchit de ces figures. On en a déjà parlé. Moi, je suis vraiment dans une position à titre perso qui est hyper ambiguë, quoi. On est dans un mouvement qui conchit à juste titre les postures de chef, d'incarnation, etc. Et puis je me retrouve avec ma bouée en face des tanks. Il y a un truc qui est zarbe.
Oui, mais c'est pour ça que je me suis permis. Puis il faut bien le dire que je me suis foutu de ta gueule. On dit, voilà, j'ai parlé de rockstar et de clown médiatique et tu fais ça très bien. Pareil, enfin, je veux dire, cette posture est un outil parmi d'autres. Il y a un Julien Leguet qui le fait très bien. En fait, tout le monde est très content que tu le fasses. Et puis voilà, puis tant pis pour toi.
Mais oui, ben, comme ce matin où il y avait une conférence de presse, de débrief avec encore une quinzaine de médias. Hein. Et ça aussi, c'est assez fou de se dire qu'après coup, ben, il y a une attention sur et après, qu'est-ce que. Ça, c'est des très bons signes, hein, sur le fait de dire que la bataille médiatique, on l'amène bien. C'est d'autres camarades qui montent au créneau. Enfin, t'as pu constater pendant tout le village de l'eau la qualité des camarades qui prennent la parole. C'est fort, on monte en compétences, on se partage les trucs et tout. Moi, je pense que ma retraite est proche.
C'est ta dernière tournée. Ouais, on le connaît ce coup-là. Tu prépares ton prochain album, en fait.
J'irai au bout de cette lutte. Je m'y donne corps et âme et tant que les camarades sont OK et que je tiens ce rôle-là, et puis justement, ça génère pas de tension, d'incompréhension, etc., et d'ambiguïté sur le fait que les seuls qui n'ont pas compris qu'on était un collectif, c'est les autorités, c'est les...
Oui, ils continuent à chercher un chef.
C'est ça.
Sans se dire qu'ils pourraient aussi chercher une chef.
Faut pas le dire, c'est une chef. T'es en train de balancer, là. Je pense que très probablement, suite à mon investissement dans les cortèges, etc., j'encours une nouvelle convocation. Le truc est toujours pas clair chez les autorités que porte-parole, c'est pas chef, que prendre un mégaphone, ben, c'est juste manifester et faire valoir la liberté d'expression, et c'est une posture dans un collectif, etc. Je vais avoir une nouvelle convoque, et puis que ça va mettre en stress toute l'équipe légale et compagnie, et puis mes proches et compagnie, parce que je suis, comme nombreux camarades, sous le coup d'un sursis. Et si pour des faits similaires, ou jugés similaires, on va falloir voir les prochains mois ce que ça donne. Puis comme je suis lent à écrire et puis il y a trop d'action, j'écrirai un bouquin en prison.
Je reviens quand même à ces rencontres internationales, de toutes ces luttes. Il y a une idée vachement forte et porteuse qui a émergé de ces rencontres, c'est que c'est multinational, c'est partout dans le monde, et il y en a beaucoup de françaises, Veolia, Lafarge, quelque chose qui a émergé comme idée. Quand il y a une action qui est déclenchée ici, elle pourrait être déclenchée ailleurs. Et inversement, et des ponts qui sont en train de s'ébaucher. Alors évidemment, vaste projet. Cette lutte, elle est internationale. C'est bien ce que sont venus nous dire ces ambassadeurs et ambassadrices. Quand on affronte Veolia là-bas, on peut aussi l'affronter ici. Je dis Veolia comme j'aurais pu dire Bouygues ou autre chose.
Bolloré, qui incarne tout ce qu'on combat.
Le capitalisme, le fascisme, la bêtise.
Le machisme, le sexisme, la violence, enfin... Il a des intérêts au port de la Palice, il possède des hectares et des hectares de forêts primaires en Afrique équatoriale. Il promeut un fascisme médiatique quotidien. Ses rencontres internationales, celles-ci mais celles d'avant, à titre perso, elles m'ont permis de conscientiser qu'on avait vraiment un rôle clé à jouer ici en France, parce que quand tu as des mines qui foutent en l'air des peuples premiers, qui leur défoncent leurs rivières, qui les empêchent de continuer à vivre simplement, il n'y a plus de poissons, ils sont empoisonnés, s'ils vont sur les zones d'extraction minière, ils se font défoncer, ils se font tuer, quoi. Le grand commanditaire de tout ça, c'est des boîtes françaises. Bah, évidemment qu'on se doit ici d'être solidaire de ces luttes, et puis en fait, on a la vraie possibilité de les taper au cœur, dans leur siège, etc., là où, dans les pays où leur image n'est pas écornée, alors que c'est des entreprises qui ont des comportements qui sont très proches du
Daesh. Plus colonial.
Quoi. Ouais, mais pour la Farge, j'ai envie de dire nazi quasiment. Quoi. Bah,
enfin, oui, de toute façon, ils ont travaillé avec. Hein, les bunkers du mur à l'Atlantique, on leur doit. Et puis, ces gens qui ont collaboré avec les nazis collaborent avec Daesh.
On se posait des questions de comment financer la sécurité sociale alimentaire. Ben, c'est tout vu. Hein. La nationalisation des entreprises Bolloré, ça aurait de la gueule. Hein. La mise en commun des profits qui sont générés pour financer ce genre de dispositif de sécurité sociale alimentaire. On n'est pas allé au bout de la discute hier. Le fait de dire c'est 150 balles par personne et par mois, c'est bien. Si en plus tu rajoutes comme cahier des charges pour acheter de la bouffe en filière courte et en bio, bah c'est mieux. Parce que là, pour le coup, ça déclenche un cercle très vertueux où en effet, aujourd'hui, en France, on n'est pas en mesure de fournir toute cette bouffe bio. Les pauvres, ils n'ont pas accès à la bouffe bio. On a bien vu quand il y a eu le Covid et où on se recentrait, on avait des budgets qui, pour le coup, comme on n'était plus obligé de prendre sa bagnole, etc., on a pu reconsacrer un petit peu de budget à la bouffe. Moi, je reste convaincu que tu poseras la question à tous les Français. Vous avez le choix, à prix équivalent, à bouffer bio ou pas bouffer bio. Tout le monde bouffe bio. Donc le problème, c'est pas qu'on produit pas trop de bouffe bio et puis qu'on trouve pas de consommateurs. C'est, enfin, on peut pas acheter, quoi. Tu vois, moi, le premier, j'aimerais bien bouffer bio tous les jours, mais avec mon RSA, ben, des fois, c'est de la pâte premier prix et puis basta, quoi. Si j'avais 150 balles par mois, évidemment, j'irais au marché. Et derrière, c'est hyper vertueux parce que derrière, c'est de la création d'emplois, c'est de la relocalisation d'emplois, ça fait revivre les campagnes. Comme ce serait basé sur la bio, regain de la biodiversité, regain de la qualité des captages d'eau potable. Ce qui était évoqué, c'était 120 milliards. Si cette sécurité sociale alimentaire, elle était accessible à tous, si on donnait 150 à tous, moi je pense qu'il y a quand même des seuils de salaire au-delà desquels, en fait, ça va, tu n'as pas besoin de cette aide-là. Donc peut-être qu'en la restreignant, peut-être à la moitié de la population la plus précaire, tu as une mesure qui est beaucoup plus applicable. Et quand tu vois ensuite les gains en termes de santé humaine, en fait, c'est des très bons calculs. Présenter la mesure uniquement sous l'angle de c'est 150 fois. Non, non, si tu fais le bilan global pour la société, c'est une urgence impérieuse et c'est une preuve de très bonne gestion d'une population que de mettre en place ce type de mesure. Et puis quand tu regardes tout le pognon qui a été filé aux entreprises avec le CICE depuis des années, avec aucune contrepartie sociétale, la manne elle est là, hein. Et puis 120 milliards, je crois que la sécurité sociale pour la santé, c'est 400 milliards par an. Et que c'est évident que si les gens mangent bien, il n'y aura plus besoin de 400 milliards sur la santé. En fait, c'est de la prévention, c'est comment on évite les cancers, comment on a une autre qualité, etc. Donc c'est des bons calculs.
C'est quoi ton programme pour l'après-midi là ?
Je savais pas trop si j'allais démonter des pinces ou quoi. Et en fait, on m'a donné une autre mission, justement, de reprendre ma casquette de clown avec mégaphone pour nous rediriger à nouveau vers la gendarmerie de Sauzet-Vaucet, qui a concentré tous les objets confisqués pendant tous les contrôles en amont du festival ou durant les manifestations. Il y a déjà un certain nombre de camarades qui se sont présentés dès ce matin pour récupérer leurs objets et qui ont des difficultés à les récupérer. C'est la procédure, ils ont leurs petits papiers, etc. Et donc on va aller au-devant de certains médias là, qui se rejoignent à partir de 14h devant et rentrer dans des négociations avec les forces de l'ordre pour que les copains puissent récupérer leur matériel et rentrer chez eux.
C'est loin d'ici ?
Une vingtaine de kilomètres. Okay. Donc comme c'est à 14h, il faut qu'on décolle.
Voici donc quelques heures plus tard, Julien Leguet de retour de la gendarmerie de Sauzet-Vaucet. Alors ça s'est passé comment cette récupération d'objets confisqués ?
Ça s'est plutôt bien passé. Ça mobilise un nombre de flics fous. Il y a 20 agents aujourd'hui, ils vont faire que ça, ils vont peut-être faire ça que ça pendant 3 jours.
C'est bien, nos impôts sont bien employés.
Pendant ce temps-là, il y a tout un tas de missions essentielles sur la sécurité des personnes qui ne sont pas tenues, quoi. Et c'est toujours cette question de où tu mets les moyens, pourquoi faire et... au détriment de quoi ? Sauzet-Vaucet, c'est un endroit où les drames familiaux, les violences conjugales, elles sont omniprésentes et elles sont en général très très maltraitées, et là elles le sont pas du tout. Et il semblerait que cette gendarmerie ait une espèce de destinée tout écrite de future déchetterie ou de centre de tri, parce que ça fait 2 fois que c'est là-bas que tous nos matériels est concentré. On avait déjà fait une rencontre là-bas un an après Sainte-Soline pour aller récupérer nos affaires et puis venir déconstruire toute la propagande darmanienne de tous ces outils qui seraient des engins d'assaut, etc.
Des boules-caisses, des piquets de sardines, voilà, une canne pour personnes qui marchent mal. Ah, tu as apporté une petite liste.
Une petite liste.
Pompe à vélo aussi.
Un couteau à beurre, des écussons, une bouteille de sirop, un imperméable kaki, des caisses de vélo, un bleu de travail, des voiles de bateau, de la peinture des ciseaux, Un masque, un marteau, un parapluie, des bocaux en verre, et puis un cendrier, un casque de skate, des limas à ongles, un bidon d'huile.
Non mais la lima ongles, je comprends. La lima ongles, c'est hyper dangereux.
Des planchettes en bois, des masques FFP3, des bouteilles de gaz de camping, des bâtons de marche, ouais, cache-cou, matériel de clown, hein, de clown de destruction massive, des brumisateurs, des serviettes hygiéniques, parce que Dixit, les agents, ça pourrait faire office de masque. Non, mais c'est hallucinant. Des crics pour les bagnoles, des extincteurs de bagnoles. Un truc qui m'a fait halluciner aussi, un casque anti-bruit pour enfants. Ouais, ouais.
Il y a des enfants très violents, hein.
Je crois qu'il y a des enfants très... Un pot curimang aussi. Un pot curimang, on ne sait pas. C'est ridicule et je pense que les agents qu'on a rencontrés sont gênés. Hein. Ils sont gênés aux entournures. C'est ce qui faisait qu'ils étaient relativement courtois et c'est la honte. C'est d'autant plus la honte que cette opération de manipulation, si on avait le même registre et la même chanson à la Prévert ou à la Boris Vian avec tout le matériel de la gendarmerie, ça donnerait autre chose. Quoi, hein. 10 camions Centaure, 9 hélicoptères, 5000 bombes B2, enfin... Et j'ai l'impression que ce coup-là, ça n'a pas pris. Ils sont aussi en train de réussir un truc, c'est que les gens dans le coin auront le bol des flics, quoi. Ceux qui vont avoir à pâtir de ça, c'est les locaux, qui en général, sur les points de contrôle, sont les plus courtois, parce qu'ils doivent vivre avec nous. Parce qu'eux, en plus, ben, ils la pressent. Puis ils savent bien que notre lutte, elle est juste. Ils ont finalement, en rétroaction, à subir de l'animosité, de l'agressivité, parce qu'il y a les Golgothes qui arrivent du bout de la France et puis qui massacrent sans aucun discernement et sans... Ouais, on sent qu'il y a de la tension quand même. C'est exprimé, moi, plusieurs fois sur les pelotons, les locaux, ils m'ont dit « Ouais, c'est pas la même équipe, quoi. »
Pour venir du parking jusqu'au village de l'eau, mon sac a été mollement fouillé par un jeune homme. J'étais assez vieux pour être son géniteur, d'ailleurs. Mes affaires de camping n'ont pas été fouillées.
Les forces de l'ordre, hein, quand ils te demandent « Vous êtes d'où ?», il faut répondre « Oui, ma mère est trouve. »
Ou « Je me suis rasé ce matin. »
Voilà, c'est ça.
Ce gendarme m'a dit « J'espère que vous avez une lampe torche sur votre téléphone portable parce que la nuit tombait, parce qu'il y a des ornières sur les chemins, faut pas vous blesser. » quoi. Ce que j'ai traduit par « ça me fait chier de faire ce qu'on me fait faire. » Autre contrôle pour aller à La Rochelle. Garez-vous là, on va essayer de procéder le plus rapidement possible pour ne pas vous faire perdre de temps. Ce monsieur est tombé dans la boîte à gants des gens qui m'emmenaient sur un couteau à huîtres. Il dit « Ah, si vous êtes charentais, alors non, mais en fait, je suis quand même obligé de le prendre, mais je comprends, c'est vrai que c'est bon les huîtres. » Ce qui est une manière de dire « ce qu'on nous fait faire nous fait chier. »
Ces trucs un peu rassurants sur les moments de contrôle et tout, tu as des flics qui dévoilent un petit peu d'humanité ou de... Ce flic qui nous a avoué qu'en cas de passage au deuxième tour du RN, sa lettre de démission était prête. C'est évidemment pas la majorité, mais...
Il aurait eu tort, parce qu'on a besoin de gens infiltrés là-dedans.
Je sais pas quelle stratégie il faut adopter dans ce genre de cas, mais il y a des témoignages de cet acabit-là qui sont à prendre en considération aussi, quoi.
Je connais une personne qui était sur l'action Lafarge décembre 2022 de désarmement, qui s'est retrouvée dans les locaux d'un truc antiterroriste. Entre deux auditions, il fumait des cigarettes avec la personne qui l'auditionnait et qui lui disait... Mais ça nous emmerde. Il y a des vrais dangereux qui courent partout et en fait on nous demande de vous courir après alors que voilà, il y a des dangers publics dont on ne s'occupe pas.
Je suis régulièrement entendu par la brigade de recherche de Poitiers. C'est la brigade de recherche. Hein. Donc c'est les gens qui sont sur les affaires de disparition, sur les affaires de meurtre, etc. Et quand ils sont mobilisés pendant toute une journée sur mon cas, assez vite, ils me font bien comprendre que c'est le cadet de leurs soucis, que c'est pas pour ça qu'ils font ce métier-là. Je remets toujours une petite couche, hein, mais... C'est du deux poids deux mesures, et puis c'est des moyens colossaux qui sont mis en œuvre, alors qu'il y a d'autres missions autrement importantes à tenir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si un jour on aura les statistiques, hein, mais la lutte contre les méga-bassines a dû générer des dizaines de démissions.
D'arrêt maladie, on en a parlé. Après Sainte-Saulce 2, ça a été le cas.
C'est ça.
Ce jeune homme qui est rentré dans son village après ce qu'on lui avait fait commettre.
Qui était de ceux qui avaient la consigne d'empêcher les secours d'arriver jusqu'aux blessés. Quand on a un peu d'humanité, comment on repart avec ça, quoi. Surtout quand t'entends ton ministre de tutelle rabâcher à tire-larigot des mensonges. Je posais la question hein, à un des agents là, de savoir s'ils avaient du soutien psy. Ils peuvent en solliciter. Là, dans le coin, il y en a un qui s'est foutu une balle dans la tête. Je suis pas sûr que le dossier des bassines lui ait fait du bien. Hein. Ce mec-là, j'étais en audition à 4 reprises. On avait eu l'occasion de parler un petit peu du fond off. Ouais, il y a le métier déconsidéré. Hein.
Il semblerait quand même que pour la moitié, cette corporation vote Front National, qu'il y a aussi des sadiques qui prennent beaucoup de plaisir à ce qu'ils font. quand j'entends un cab, bon, je comprends que des gens puissent le dire.
Les gens qui ont subi ou eu à subir les violences policières, dans les anciens gilets jaunes, ou chez les camarades sur les ZAD, qui en ont pris plein la gueule, ou des gens qui sont dans les cités, qui étaient sur les émeutes de Naël, etc., qui a une grande animosité vis-à-vis des forces de l'ordre, qui n'est pas de distinction, je peux l'entendre. Ils ne font pas preuve de distinction non plus en face, quoi, hein, quand il s'agit de tirer dans le tas.
Je peux tenir le discours que je te tiens parce que je suis un homme blanc, socialement plutôt inséré, voilà, de centre-ville. C'est du haut de mes privilèges que je me permets aussi ces analyses un peu compassionnelles. Hein.
Il faudrait, plutôt qu'à CAB, tous les flics sont des bâtards, on pourrait reformuler. Beaucoup de flics ne connaissent pas leur maman ou leur papa. Non, je sais pas. C'est peut-être le terme de bâtard. Bâtard, en fait, c'est pas une insulte. Tu choisis pas de savoir si tu connais ton père ou pas ton père et si t'es un enfant illégitime ou pas. Donc je...
Ça me fait penser à un panneau que j'ai vu en manif. Les travailleurs et travailleuses du sexe vous font savoir que les policiers ne sont pas leurs enfants. Et voilà les amis, c'est sur ces considérations vaseuses et peu polissées, mais on était épuisés, hein, surtout Julien, que s'achève cette série autour de cet extraordinaire village de l'eau, saga dont les 15 épisodes sont à télécharger sur notre site polymixetlavoixoff.com. L'occasion de vous dire encore une fois un grand merci à tous, merci pour cette fantastique et géniale expérience qui a posé des choses importantes. Celui qui vous parle n'est plus exactement celui qu'il était avant de vivre ce village de l'eau, ça je dois vous le dire. Et je dois aussi vous remercier pour le plaisir que votre serviteur a pris en essayant de vous raconter quelques aspects de cette riche aventure. Fabriquer cette série radio m'a permis de rester au village de l'eau pendant de longs mois d'automne, d'hiver et de printemps. Je suis resté blotti en juillet 2024 à Saint-Martin-les-Mels, protégé comme dans un cocon de joie et d'intelligence qui m'a épargné l'horreur et la bêtise de l'actualité. Démonstration qu'il ne faut pas baisser les bras. Il y a partout plein de personnes incroyablement chouettes, intelligentes, courageuses, joyeuses, inventives et j'en oublie. Partout des feux de résistance luisant ici et là dans la nuit qui tombe avant le retour de l'aube. Vous n'êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Puis si ça se trouve, on pourrait même gagner. No basaran.
Nous sommes des gens, des campagnes et des villes, des travailleurs, travailleuses de toutes sortes et des paysans, paysannes, des ouvriers, des artistes, des chômeurs, des filles et des fils de la terre et de l'eau. Nous sommes des vivants et vivantes. Nous sommes des regroupements et des organisations, des associations, des mouvements et des peuples. Nous dénonçons le capitalisme. Le productivisme, l'extractivisme, le colonialisme, le patriarcat et tous les mélanges de ces termes complices et tous les régimes politiques autoritaires affirmés fascistes ou déguisés en résidus démocratiques. Nous les combattons parce qu'ils nous volent nos communs. Ils détruisent la biodiversité, les écosystèmes, la vie de la planète parce qu'ils brisent nos égalités et entravent nos libertés, y compris spirituelles, parce qu'ils s'attaquent à l'irréductible diversité de nos identités multiples. Nous sommes dans la défense, la construction et la conquête de nos autonomies de tout ordre, à la recherche de démocratie politique, sociale, alimentaire, énergétique, radicale. Nous nous méfions des institutionnalisations et des verticalités. Nous exigeons des rotations et des partages dans la prise de décision entre tous, de tous les âges, de tous les genres, de toutes les origines et aussi entre les anciens dans les organisations et les récents et entre les détenteurs de capitaux culturels et ceux qui en sont privés. Nous sommes une organisation plurielle mais singulière, sans ordre ni sommet. Composé de petites coopératives, de grands mouvements, d'expériences autogérées, d'entraide planétaire, d'agences de moyens, de petits pays enracinés dans les interstices des pays officiels. Nous sommes des liens d'amitié durables et des alliances ponctuelles, des structures formelles et surtout des interactions informelles. Nous vous appelons à nous rejoindre sous n'importe laquelle de ces formes, à construire notre nouveau monde, à petite échelle ou à grande échelle, en produisant autrement, en inventant de nouvelles relations horizontales, en finançant des caisses de résistance, en prenant soin les unes des autres, en rejoignant les luttes qui vous enchantent. Rejoignez-nous parce qu'il n'y a plus d'autre solution pour sauver nos libertés, pour nous sauver, nous, humains et non-humains, nous, planète.